France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Bonsoir Lionel, on vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne, France Musique.
C'est un pionnier des musiques électroniques que nous recevons ce soir. Producteur mythique du label Columbia, il fut le premier à fixer sur disque le célèbre INSI de Terry Riley. Compositeur, David Berman apparaît comme un pionnier de l'informatique musicale, chantre de la musique minimaliste. Il est l'invité de cette émission. Mais ouvrons ce tapage nocturne avec notre page phonographique. Alors François, avec quoi venez-vous ce soir ?
Je vous propose une nouveauté, Bruno, nouveauté toute relative, car la pièce dont nous allons entendre un extrait date de 1980. Elle s'intitule Canon et on la doit au compositeur allemand Ernst Albrecht Stibler. Stibler, né en 1934, est une figure étonnante de l'avant-garde allemande. Élève assidu des cours d'été de Darmstadt de 1958 à 1961, il décide pourtant de quitter le monde du sérialisme pour créer une musique minimale, réductionniste, se basant principalement autour de considérations liées au rythme, à la sonorité et à la durée. Canon est en cela exemplaire de ce dernier axe de recherche, tant la forme musicale se nourrit de la durée pour s'établir et se déployer. Cette pièce, composée pour orgue, orgue électrique et instruments à vent, et jusqu'alors inédite, vient de paraître en disque aux éditions Télémark, accompagnée d'une autre pièce, pour orgue uniquement, intitulée Torsi. Nous écoutons un extrait de Canon, Ernst Albrecht Stibler.
Thank you.
Nous venons d'écouter un extrait de Canon que l'on doit au compositeur allemand Ernst Albrecht Stiebler.
Entre 2002 et 2004, Marc-André Dalbavy compose Palimpseste, une œuvre en un seul mouvement pour six musiciens. Elle est écrite à partir de deux musiques qui alternent entre elles en se métamorphosant. Elle fut inspirée par le roman d'Hoffmann, Le chat mûr, qui raconte l'histoire d'un chat qui, après avoir lu la biographie de la vie agitée de son maître, se met à écrire la sienne au dos de chaque feuille. Le manuscrit est envoyé ainsi à un éditeur qui le publie, intercalant la rédaction de Kiesler, le maître, et celle de Mûr, le chat. Les espaces, respectivement occupés par les trois instruments à cordes d'un côté, les deux instruments avant et le piano de l'autre, représentent les deux textes du roman d'Hoffmann. Palimpseste de Marc-André Dalbavy par l'ensemble L'Itinéraire sous la direction du compositeur.
Thank you.
l'Imceste de Marc-André Dalbavy par l'ensemble L'Itinéraire, sous la direction du compositeur, un disque paru en 2006 sur le label Soupir.
France Musique.
Pionnier de l'expérimentation musicale post-keynésienne, fondateur de Sonic Arts Union aux côtés notamment de Robert Ashley et Alvin Lucier, directeur de la collection discographique Music of Our Time chez Columbia, David Berman est une figure discrète, bien qu'incontournable, de l'avant-garde américaine. Profitant de son passage à Paris pour le festival Présence électronique, nous sommes allés à la rencontre de David Berman pour évoquer son parcours, ses influences et ses récentes découvertes musicales. Il est l'invité de ce tapage nocturne. David Berman, good evening.
David Berman, bonsoir. Quel a été le point de départ de votre aventure musicale? Qu'est-ce qui vous a décidé à étudier la musique? Je pense qu'au tout début, je n'étais pas vraiment sûr. J'ai grandi avec de la musique classique et celle de Broadway. Donc il était assez naturel pour moi d'aller vers des études de musique à l'université et ainsi de suite. J'avais commencé le piano très jeune. Ensuite, j'ai étudié la musique conventionnelle à la fac, et puis je me suis fait des amis, des gens qui étaient très intelligents et qui faisaient des choses nouvelles. L'un d'eux était Frédéric Jevski, il est assez connu, et l'autre Christian Wolff. Christian était un peu plus âgé que Frédéric et moi, mais nous nous sommes rencontrés à l'université. Et Christian Wolff nous a présenté John Cage, Morton Feldman, David Tudor, Earl Brown. Ensuite, pour résumer, je suis parti en Europe et j'ai étudié là-bas avec des compositeurs européens. Stockhausen, Henri Pousser. Et puis j'ai brièvement fait la connaissance de Pierre Boulez, même si je ne le connaissais pas très bien. Ensuite, je suis revenu à New York. En tout cas, pendant ces années-là, les années 60, j'ai trouvé que la musique européenne avait tendance à être compliquée. Et ce groupe d'Américains en particulier, Christian Wolff, David Tudor et John Cage, faisaient, eux, des choses hors des sentiers battus qui avaient moins à voir avec la hiérarchie. En Europe, c'était encore les compositeurs tout en haut et puis les musiciens qui devaient exécuter un travail. Les Américains voyaient les relations de façon plus égale entre les participants d'un concert. En particulier dans la musique de Christian Wolff. Et la musique de Frédéric Jaffsky était toujours très engagée politiquement, et c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà pour le cadre général. En ce qui concerne la musique électronique, j'ai commencé à m'y intéresser au milieu des années 60. Sans l'étudier, juste en apprenant avec des amis. Et c'était avant qu'on puisse acheter de la musique électronique. Et ça devait être restreint à l'époque à l'équivalent du GRM, si bien que chaque studio électronique était différent, où que vous alliez dans le monde. J'ai donc commencé à me passionner pour la musique électronique et je me suis mis à fabriquer des circuits pour les concerts.
En
1966, vous avez fondé avec Robert Ashley, Alvin Lucier et Gordon Mumma la Sonic Arts Union. Quel en était le but ? Ce n'était pas vraiment un groupe, mais plutôt une anthologie. Au départ, le nom que l'on portait, quand on faisait des concerts, tous les quatre, était le Sonic Art Group. Puis on s'est dit que le mot groupe n'était pas bon, que union convenait mieux. Donc nous avons changé pour Sonic Arts Union. Nous nous aidions mutuellement sur nos pièces, mais on ne faisait pas d'improvisation générale. Donc nos concerts avaient toujours quatre personnalités, celles de chacun de nous. Il y avait aussi des performances plus larges. Les femmes qui partageaient nos vies étaient également artistes, et elles participaient aussi. Mais la plupart du temps, c'était nous quatre. On a fait des concerts pendant à peu près 10 ans. Plus tard, vous avez fait partie d'un autre collectif, la Ligue des compositeurs automatiques. C'était à la fin des années 70 en Californie. La Ligue des compositeurs automatiques s'est créée quand le premier micro-ordinateur est sorti sur le marché. En Californie, on avait accès à davantage d'informations sur la technologie. Et les artistes là-bas, en Californie, avaient tendance à être plus proches de la technologie qu'ailleurs. Il y avait donc un groupe, pas tant de gens que ça, mais quelques-uns qui s'y intéressaient et qui utilisaient ces premiers ordinateurs. J'enseignais au Mills College à l'époque. Et je me souviens qu'un étudiant était arrivé avec un ordinateur, et puis un autre avec un ordinateur différent. C'était vraiment le début de cette époque. C'était la période où Steve Jobs développait Apple. À l'époque, c'était comme si une porte magique s'ouvrait sur ce nouveau monde de possibilités numériques. On ne savait pas encore vraiment à quelle vitesse tout cela allait se développer et comment le monde allait changer. Donc j'ai été membre de cette ligue pendant un court moment. On faisait des concerts au début où l'on mettait nos quatre Kim One, c'était des ordinateurs très primitifs, sur une table et ils communiquaient un peu ensemble. Ça a été le point de départ d'une nouvelle direction.
Oh.
People sometimes say you're a minimalist composer. Do you agree with
this? On vous décrit parfois comme un compositeur minimaliste. Êtes-vous d'accord avec cette définition? Pas vraiment. Je dirais que certaines musiques que j'ai composées au début peuvent être qualifiées de minimales ou minimalistes parce qu'elles évoluent très lentement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment minimaliste que je fais. L'influence de la musique minimaliste reste très forte pour moi, mais j'ai été très influencée par Terry Riley, Lamonte Young et d'autres artistes. Mais je n'ai plus la patience que j'avais autrefois. Qu'est-ce qui vous inspire dans le fait d'utiliser les interactions en temps réel quand vous créez votre musique ? Récemment, ce qui m'inspire, je travaille avec un jeune artiste, Jesse Styles. Il travaillait avec la Cunningham Dance Company en tant que compositeur, ingénieur, technicien audio. Et j'ai été vraiment fascinée par ce qu'il fait avec les déplacements spatiaux. Il utilise un logiciel qui a été développé ici à Paris. Je ne me souviens pas du nom. Il comprend deux choses. Il y a une petite manette de contrôle qui s'appelle Leap, qui capte les mouvements des mains, et puis un logiciel qui opère des rotations du son de façon très sophistiquée. Et je vois là dans votre studio, peut-être que vous l'utilisez ici. Je suis âgée maintenant, mais cette invention toute nouvelle m'a beaucoup inspirée. Et grâce à Jesse. Je pourrais citer plus de choses, il y a tellement de choses qui m'inspirent. D'ailleurs, je préfère utiliser le mot « influencer » plutôt qu'inspirer. Par exemple, la musique de David Tudor ou celle de mes amis Gordon Mumma et Robert Ashley et Paul de Marinis, que vous connaissez sûrement, c'est un merveilleux compositeur. Anea Lockwood, Pauline Oliveros, Mariana Machet, Eliane Radig, tous ces gens-là m'ont influencé.
You've been working at the Merce Cunningham Ballet.
Vous avez parlé du Merce Cunningham Ballet et vous avez collaboré avec John Cage. Fait-il aussi partie de vos influences? Tout à fait. Cela a vraiment changé la vie de nombreux compositeurs de ma génération d'entrer en contact avec John Cage. Son rejet des idées conventionnelles, la façon dont il s'est emparé du monde extérieur. Comme le disait Duchamp, qu'il ne devrait pas y avoir de séparation rigide entre l'art et la vie. Ce sont des idées qui m'ont beaucoup influencé.
So you've been teaching as well, and what's your look on the new composers generation?
Vous enseignez également. Que pensez-vous de la nouvelle génération de compositeurs? Il y a un jeune compositeur qui s'appelle Click Shry. Il est très bon. Je l'ai rencontré quand il était étudiant de troisième cycle à Wesleyan, où j'enseignais il y a 2 ans.
And then Jesse Stiles is very gifted. And see.
Et puis il y a Jesse Stiles qui a beaucoup de talent.
Pensez-vous
que la jeune génération poursuit ce qui a été lancé dans les années 60-70, ou qu'il y a une sorte de changement de paradigme? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de types différents de musique. Certains jeunes artistes rejettent le monde numérique, et c'est assez compréhensible quand on considère tous les mauvais aspects auxquels est liée la technologie informatique. Il est donc difficile de généraliser. Aujourd'hui, la jeune génération prend des chemins très variés. Mais il faut noter une chose, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre la musique sérieuse et la musique populaire, le jazz. Les jeunes musiciens peuvent faire passer leur oreille d'un genre musical à l'autre, et c'est une belle évolution. Quand j'étais jeune, quel que soit votre enseignant, on vous disait qu'il n'y avait qu'une seule voie à suivre, et on vous disait d'oublier tout le reste. Et c'était une idée abominable. L'une de vos pièces enregistrées les plus célèbres est Leap Day Night. Parlez-nous de cette œuvre et de la façon dont vous êtes parvenu à ces changements de ton qui sont uniques, qui sont au cœur de l'œuvre. Je ne sais pas vraiment comment décrire ce que j'ai fait. Je ne travaille pas de façon très méthodique. Mon travail est toujours intimement lié aux caractéristiques des moyens que j'ai à ma disposition. À l'époque de Leap Day Night, c'était un ordinateur Apple, et j'avais des cartes son qui généraient des sons. Et puis c'était le tout début du MIDI. Et j'avais aussi des capteurs de ton. À cette époque, c'était une période de transition entre les capteurs de ton faits maison. Que je fabriquais moi-même avec un système de circuit analogique, et puis ces capteurs numériques qu'on pouvait acheter au milieu des années 80. Leap Day Night doit aussi beaucoup à la collaboration avec Ben Neil, qui joue de la trompette, ainsi qu'avec Rhys Chatham, qui m'a fait connaître Ben Neil. Et cette pièce, Leap Day Night, laisse aussi beaucoup de place au musicien qui la joue. Donc c'est lui qui va déterminer la nature de la pièce. Je dirais que je n'en suis pas le compositeur à 100%, mais seulement à 77% ou quelque chose comme ça.
You've been teaching as well.
Vous enseignez également. Que pensez-vous de la nouvelle génération de compositeurs?
Some of the young composers that I've met at the Bard Summer Program.
Certains compositeurs que j'ai rencontrés au programme d'été du Bard College sont très talentueux. Je pense par exemple à Kath Lamb, qui vit maintenant à Berlin. Elle fait de la musique très minimaliste. Il y a aussi une très jeune Danoise qui s'appelle Ronhild May. Je viens de la rencontrer, mais j'ai pu entendre qu'elle composait des pièces très belles et drôles, avec des costumes qui émettent des sons.
And then, of course, I've been influenced by older women composers, but I already mentioned that.
Et puis, bien sûr, j'ai été influencée par des femmes compositeurs plus âgées que j'ai déjà mentionnées.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Delphine Baudet et Alexandre Bazin. Attaché d'émission Soisic Noël, traduction Valentina Gardet, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver les Alas Brévées d'Anne Montaran.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.